LSD, la série documentaire, un podcast France Culture.
Je me demande quel personnage je voudrais lire. Enfin, ah, cité, tu voudrais lire quelle réplique? Celle d'Agnès ou celle d'Arnaud?
Les sculpteurs, ils s'en servent.
Vous vous sentez prête, Carrel?
Ah oui,
voilà, parce que Carrel, en fait, est inscrite en troisième et dans le cadre du brevet, en fait, il y a l'épreuve d'histoire des arts. Et donc, Carrel est passionnée par le maquillage. Et donc, elle devait présenter un petit oral. Qu'est-ce que vous en pensez, Carrel? Vous sentez de le faire aujourd'hui ou pas? Dites-moi.
C'est pour ça que je suis venue.
Bah
donc,
oui.
Donc, on y va.
Alors, Carrel, justement, ce qui va être intéressant, c'est un petit l'entraînement dans lequel vous allez être. Donc, vous allez être face à un jury, d'accord? Et donc, vous allez vous présenter. Donc, présentez-vous, justement.
Mon prénom et tout.
Absolument.
Ça.
Absolument. Votre niveau scolaire, votre prénom.
Moi, je m'appelle Carrel, j'ai 14 ans et je suis en 3e.
Très bien. Et donc, vous allez présenter...
Et du coup, je vais présenter un oral qui portera sur le maquillage à travers les siècles et l'impact de la société sur celui-ci. Je commence ?
Oui, vous pouvez commencer.
Oh non, en fait, le maquillage est vraiment une chose sur laquelle la société, la vision et l'idéologie présentes a beaucoup d'impact. Et qui reflète bien en fait la société et surtout la vision de la beauté qui a toujours
Jeunesse,
été quelque chose
d'assez le mal de vivre. Une série documentaire de Johanna Bedeau, réalisée par Marie-Laure Ciboulet. Quatrième épisode, quand l'école fait mal.
C'est parce que avant, c'est vrai que je connais moins et que je suis un peu moins spécialisée.
On a des élèves de la 5e à la terminale.
Fadela Alila, professeure de français au centre scolaire de la Pitié-Salpêtrière.
L'équipe est constituée aussi de mon collègue de mathématiques, Monsieur Célès, ma collègue d'anglais, Madame Rosalska. Voilà, on forme l'équipe éducation nationale. On a aussi des enseignants PVP qui travaillent avec le premier et le second degré en art visuel. Donc, Madame de Louvrier a travaillé, vous voyez, le projet maquillage avec Carrel. On essaie de constituer une vraie petite école. On accorde en général 2 créneaux d'une heure à chaque niveau. Voilà. Bon, parfois, c'est un petit peu compliqué parce qu'on a des classes avec des exigences qui sont très, très différentes. Hein. Et puis, des temps de scolarité très différents. Élise, par exemple, qui est à l'hôpital de jour, eh bien, on a quand même toute sa scolarité en responsabilité, hein, puisque voilà, c'est quand même son lieu de référence quand même principal. Et puis, des élèves comme Lélia, qui sont aussi très nombreux, qui sont hospitalisés sur de longs temps quand même. Hein. C'est 3 mois minimum, mais souvent, ça va à 6 mois. Bastien, ça fait quasiment 1 an et demi. Donc, on a un peu aussi l'antichambre des soins études, puisque ces élèves-là sont en attente, justement, de structures qu'on appelle les soins études. On pallie vraiment, vraiment à cette absence de nombreux dispositifs.
Difficile d'imaginer que l'école, lieu de socialisation de nos enfants mais aussi des apprentissages, puisse rendre certains aussi malheureux. Simon, Pauline, Alix nous guident dans cette peur irrationnelle de l'école et dans cet état anxieux sévère qu'est la phobie scolaire. Des jeunes, des professeurs et des équipes éducatives au cœur d'un hôpital public. Un principal de collège, une mère et son fils et une professeure d'anglais. Une longue chaîne pour comprendre la prise en charge psychique du jeune et mieux appréhender ce phénomène de phobie scolaire qui s'étend.
Je suis Nicolas Espel, je suis donc directeur aujourd'hui du centre scolaire du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à la Pitié-Salpêtrière, qui est un centre scolaire comme il y en a dans les autres hôpitaux pédiatriques de Paris notamment, mais qui là n'est dévolu qu'à la pédopsychiatrie, c'est ce qui en fait la particularité. Il y a un couloir qui est dédié avec des salles de classe, évidemment une équipe d'enseignants.
Avec un panneau qui indique l'école.
Et c'est très important pour nous. C'est-à-dire que ça fait partie du soin, que les jeunes et les enfants se transforment, si je puis dire, en venant ou en sortant de service ou d'une unité, arrivent ici en devenant élèves. Et ne serait-ce que ce chemin, qui peut être de quelques marches, hein, ça suffit, ne serait-ce que ça, déjà, détermine un peu, ou en tout cas, permet d'avoir une posture différente, qui me paraît nécessaire et indispensable, en tout cas à leur parcours au moins scolaire et parfois de santé.
Voilà. Quel est le but d'assurer une scolarité pendant les périodes de crise ou des périodes d'hospitalisation?
Alors, il y a plusieurs axes, on va dire. Il y a d'abord ceux qui sont scolarisés habituellement, qui sont effectivement en période de crise. Et là, il s'agit d'essayer de préserver la scolarité dans ce qu'elle a de dynamique, je dirais. C'est aussi peut-être pour ces enfants-là, mais pas seulement, ou ces jeunes, un point important, souvent pour les familles, non pas que ce soit un argument pour qu'ils rentrent et qu'ils soient hospitalisés, mais c'est rassurant pour les familles de savoir qu'il y a une école dans le service. Ça fait un peu moins psychiatrique au sens strict du terme. Et puis, pour beaucoup, et de plus en plus aujourd'hui malheureusement, c'est aussi un moment où c'est l'occasion de faire une reprise scolaire. C'est-à-dire des enfants ou des jeunes, plutôt adolescents là en l'occurrence, qui ont pris leur distance avec l'école ou avec le collège, et parfois des distances dans la durée, et qui, arrivant ici finalement, vont reprendre contact avec l'école. Et c'est parfois l'occasion, alors ça ne fonctionne pas à tous les coups bien entendu, mais de remettre le pied à l'étrier, comme on dit, reprendre confiance en soi, reprendre simplement le chemin de l'école, encore une fois, et un rythme de travail, des exigences. Et puis d'avoir aussi, sans doute, pour beaucoup, un regard un peu différent de l'éducation nationale, ou en tout cas de ce à quoi ils avaient affaire dans le circuit ordinaire, qui pouvait être difficile, douloureux, blessant, ou que sais-je. Et donc, voilà, on essaie d'assurer, une bienveillance de fait. Pour des jeunes qui sont quand même des patients, même si nous, on les prend comme élèves.
Et ici, c'est pas seulement tenir un programme ou aller jusqu'au bout d'un programme, c'est travailler sur la confiance en soi, retrouver le goût de l'apprentissage, retrouver le goût d'apprendre et de découvrir.
Ouais. On a affaire à ça parfois très tôt, avec des enfants qui sont en hôpital de jour, qui sont là pour des troubles d'apprentissage majorés, par des troubles des comportements ou autres. Et qui, de fait, eux, ont eu des difficultés à entrer simplement dans les apprentissages. Hein, souvent, sont non-lecteurs ou piètres lecteurs ou ont buté sur des difficultés importantes scolaires dès leur prime enfance. Et donc là, c'est un travail au long cours, 2, 3, 4 ans souvent, pour les accompagner scolairement, souvent avec évidemment des accompagnants de soins éducatifs qui sont nécessaires, qui leur permettent d'émerger au bout de 2 ans, souvent, de prise en charge.
On y va. Vadim. Alors, je vais te donner un petit exercice qu'avec des consignes. Tu vas suivre les consignes qui sont numérotées. D'accord ? Tu sais lire ? Je sais que tu sais lire. Donc, dans un premier temps, tu lis le tout petit texte, tout court qu'il y a ici, avec les dessins. Lecture. Et après la lecture, tu vas commencer à lire les consignes qu'on te demande. D'accord ? Très bien. Alors, vas-y.
C'est l'hiver, il neige. Les enfants jouent dans la neige.
Très bien.
Il fait froid.
Effectivement, on peut observer qu'il y a une augmentation des enfants qui sont en difficulté en situation scolaire. Mais il ne faut pas confondre une notion importante qui est que tout enfant qui est en difficulté scolaire n'a pas forcément des troubles spécifiques des apprentissages.
Élie Coury, psychiatre de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital Robert Debré.
Les enfants qui ont des troubles spécifiques des apprentissages, ce qu'on appelle dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, etc. Là, alors c'est quand même des troubles qui sont fréquents. On est autour de 10% quand même de la population pédiatrique, mais c'est des prévalences qui sont stables dans le temps. Mais quand même, on en a 10%, donc ça peut faire 2 à 3 enfants par classe, parfois. Par contre, on a une autre catégorie d'enfants qui sont en difficulté scolaire sans avoir un trouble spécifique des apprentissages, mais qui sont quand même en difficulté scolaire. Et là, on a une réelle augmentation depuis quelques années. La pandémie du Covid a beaucoup participé à ça. Ça a été multifactoriel. C'est pas le Covid en soi, mais vraiment la difficulté à pouvoir mettre en place et perpétuer la scolarité alors qu'on a eu plusieurs confinements, des mesures sanitaires à mettre en place. Ça a fait pendant 2 voire 3 ans chez des enfants qui sont encore en école primaire, des années scolaires qui ont été en pointillés. Donc, chez ceux-là, effectivement, on a pu observer une augmentation des difficultés scolaires et de vrais décrochages scolaires. Mais ce décrochage a aussi affecté, et même plus, le premier groupe dont je parlais, qui sont les enfants avec des troubles des apprentissages. Et puis, de façon encore plus large, on a des enfants qui, sans avoir strictement des difficultés scolaires, ont un refus scolaire anxieux ou une phobie scolaire. On a pu en voir de plus en plus du fait de difficultés psychologiques, du fait de difficultés anxieuses. Là aussi, on a effectivement de plus en plus de situations d'enfants qui sont en situation de refus scolaire, de phobie scolaire.
Est-ce que tu me mettras une note à la fin ?
Pour l'instant, je ne mettrai pas de note, je mettrai une petite évaluation pour t'encourager. Ou, si tu es d'accord, j'ai des petites gommettes avec des petits bonhommes. Tu sais ? Bien, moyen, mais pour le moment... Tu as commencé les cours aujourd'hui, je ne mettrai pas de notes.
Mais tu vas me dire, genre, j'ai bien travaillé.
Pour la question de l'école, et donc de la difficulté pour certains enfants et adolescents à être à l'école aujourd'hui, il y a plusieurs terminologies. Ce qu'on appelle phobie scolaire, c'est les enfants qui ont peur de l'école. Alors, soit peur de ce qui s'y passe, soit peur de l'échec. Le refus scolaire, ce sont des enfants qui n'ont pas forcément peur de l'école, mais qui refusent de se conformer à ce que l'adulte attend de l'enfant en termes d'inscription à l'école. Et puis, vous avez aussi ce qu'on appelle les décrocheurs scolaires. Donc là, c'est pas tellement dans le champ de la psychiatrie, c'est plutôt dans le champ de l'éducation nationale. Parce que vous avez, bien sûr, dans les décrocheurs scolaires, certains phobiques scolaires, certains refus scolaires chroniques. Mais vous avez aussi toute une série de jeunes qui ne sont plus intéressés par la question scolaire, mais qui ne la refusent pas particulièrement. Donc il y a finalement une hétérogénéité.
David Cohen, psychiatre, professeur et chef du service de pédopsychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à la Pitié-Salpêtrière.
Et c'est vrai que dans la période post-Covid, on s'est rendu compte que, d'une part, il y a un certain nombre d'enfants qui avaient, on va dire, une phobie scolaire légère ou une anxiété scolaire légère, qui, finalement, se sont tout à fait bien retrouvés dans une forme d'enseignement à domicile, avec papa et maman disponibles, avec Internet, avec machin, etc., pour qui le retour à l'école n'a pas du tout été de soi, d'autant plus qu'il y avait des réaménagements liés à l'organisation familiale, parce qu'il ne faut pas oublier que l'anxiété scolaire est souvent liée à l'anxiété de séparation. Or, aujourd'hui, dans les familles, on a beaucoup plus de télétravail, donc beaucoup plus de parents présents à domicile, et donc beaucoup plus d'enfants et de jeunes adolescents qui se disent « bah tiens, je vais rester avec papa et maman, et puis j'adore cette ambiance, etc. etc. » Et puis ça me rassure par rapport à la question de l'anxiété de séparation. Vous avez toujours les refus scolaires, d'autant plus que on est dans une génération qui a le sentiment que l'école n'est plus au service de leurs intérêts, mais au service d'une forme de normalité de la société auquel ils ne croient plus. Et puis, vous avez les refus scolaires, parce qu'il y a d'autres problématiques et c'est une manière de s'opposer. Et puis, enfin, vous avez la question des décrocheurs scolaires qui se recoupent. En fait, il y a une contestation de la norme sociale. Souvent, d'ailleurs, les jeunes qui restent à la maison vous disent « Non, mais attendez, moi, j'apprends plein de trucs sur Internet. Contrairement à ce que disent mes parents, je fais pas que jouer. » Et je crois que cette désillusion, elle se voit finalement dans tout ce qui faisait norme du collectif. Et c'est un enjeu qui est majeur pour la société parce qu'on ne sait plus très bien qu'est-ce qui va faire collectif.
J'ai eu, je me rappelle quand j'étais petit, déjà un problème d'abandon. J'avais très peur que mes parents ils m'abandonnent, genre par exemple dans les magasins.
Simon.
J'avais très peur quand mes parents n'étaient pas à un mètre de moi, genre qu'ils allaient dans un autre rayon. Et j'avais, oui, encore un peu peur à l'école primaire que, oui, on m'abandonne. Mais c'est surtout, j'avais l'impression que s'il m'arrive quelque chose, il n'y aura pas mes parents pour m'aider, enfin, il n'y aura pas genre quelque chose de réconfortant. J'avais l'impression d'être seule dans ce cadre qui ne m'allait pas.
Mon fils, qui a 14 ans, était, quand il était tout petit, un enfant plutôt calme et plutôt très cool.
Flavie.
Et vers 7 ans, grosso modo, 7-8 ans, il s'est mis à devenir très anxieux. Notamment, il avait une forte anxiété de séparation. Dès qu'on sortait d'une pièce, qu'il ne voyait plus sa sœur, son père et sa mère, ça devenait compliqué. Voilà. Et lui, il met l'école en numéro 1. Moi, je vais avoir tendance à trouver d'autres causes. Nous, on a quand même constaté des manifestations qui étaient un petit peu plus générales d'un enfant dont on a compris tout d'un coup qu'il était très anxieux. En CE1, il a commencé à, effectivement, par exemple, avant d'aller à l'école, à exprimer qu'il avait hyper mal au ventre. Et puis, on l'amenait à l'école. Et puis, effectivement, il pleurait devant l'école. C'est plus l'image qu'on a d'un enfant de petite section, les tout premiers mois, où vraiment, il voulait pas y aller. Il se roulait par terre. On le forçait, la maîtresse le tirait, voilà. Du coup, quand on organisait un moment un peu de médiation avec les instits, ils disaient « Ah, bah ok, d'accord, je vais faire attention à ça. » Et puis finalement, ça s'arrangeait, ça rentrait dans l'ordre. Jusqu'en CM2, où là... Alors, c'est un instit que ma fille avait eu aussi, parce que donc, ma fille est plus grande. Moi, j'avais le souvenir d'un instit un peu vieillot, réac, mais bon, pas plus que ça. Et en fait, assez rapidement, il a commencé à faire un espèce de blocage vis-à-vis de cet instit. On avait très régulièrement, j'ai mal au ventre, ça va pas du tout, je peux pas y aller, je me sens pas bien. Il trouvait plein de, de façons pour arriver extrêmement en retard. Il y avait toujours un truc qui faisait qu'il pouvait pas se préparer, enfin, voilà. Je me souviens des moments du coucher où c'était terrible. C'est-à-dire qu'il nous regardait, son père ou moi, et c'était aidez-moi, je peux pas y aller, aidez-moi, il faut qu'on trouve une solution. En pleurant, mais vraiment, c'était bouleversant. Moi, j'ai pas de solution, en fait, l'école, c'est obligatoire. T'es dans une petite école, il y a pas d'autres classes, je peux pas te changer. Enfin, voilà, on était complètement dépourvus. Et le matin, on l'emmenait à l'école et c'était terrible. Donc, je me souviens, en voiture, il commençait à pleurer assez longtemps avant d'arriver. Et puis, du coup, je devais le sortir de force, il se roulait par terre. Et donc, l'instit, là où les années précédentes, quand on avait eu des scènes comme ça, elles étaient genre très calmes, t'inquiète pas, je vais te prendre à part, on va prendre un temps, je vais t'aider à te calmer. En fait, l'instit paniquait aussi. Et donc, du coup, il était là, il me regardait avec mon fils qui se roulait par terre, il disait, mais qu'est-ce qui lui arrive? Mais je comprends pas. Et moi, je le regardais, je savais pas quoi faire, et il m'aidait pas du tout, et mon fils qui me regardait avec des yeux terribles, genre, tu peux pas me laisser avec lui, c'est pas possible. Enfin, c'était atroce.
Je voyais plusieurs psychologues qui, du coup, me demandaient mon ressenti face à l'école. Et de nombreuses fois, je disais, bah, pour moi, c'est une prison où on est enfermé de 8h à 17h. Et j'avais l'impression que les profs étaient surtout concentrés sur la discipline. On pouvait pas bouger de notre chaise. Moi, j'en avais marre. En plus, on n'avait pas le droit de parler, sinon on nous criait dessus. Et j'avais pas l'impression que... c'est surtout ça, j'ai remarqué ça au collège, mais ils font plus trop attention aux difficultés. Mais faut réussir, sinon vous êtes des ratés, quoi. Et je suis partie en vrille et j'ai arrêté d'y aller. J'ai essayé des autres établissements, mais ça a pas trop marché.
Je me souviens d'un jour où je l'amenais en voiture et j'arrive devant l'école, je vois son instit sur le trottoir et moi-même, j'ai pas pu chier continuer la route. C'est-à-dire que je me disais, je suis pas prête à revivre cette scène, en fait. Là, ça a commencé à m'atteindre un peu. Donc bref, au final, on est arrivé fin janvier à la conclusion que c'était plus possible, que... On pouvait plus le faire souffrir comme ça et pour nous ça devenait trop dur aussi. On a essayé de le mettre dans une autre école. Ça a duré 4 jours en fait, je pense qu'il était trop abîmé.
L'école, ça a toujours été une institution très violente parce que c'est du tri de masse. Donc moi, à chaque fois, ça m'épate qu'il y ait autant d'élèves qui arrivent à être adaptés au système scolaire.
Sophie Ballu, professeure d'anglais.
Ça se voit moins au lycée parce que nous, on est le site technologique et général. Donc les élèves qui arrivent là, c'est des élèves qui ont réussi à composer ou à fonctionner ou qui ont accepté les règles de l'école et qui arrivent à fonctionner avec. Mais c'est vrai qu'au collège, on voit plus cette différence. Et c'est vrai que... Quiconque a déjà repris des études s'aperçoit à quel point c'est dur de rester assis à écouter pendant des heures comme ça à une table.
Alors l'école, il y a la maternelle, il y a l'école, le primaire, il y a le secondaire, c'est important, il y a le lycée, c'est pas tout à fait les mêmes enjeux.
Hélène Romano, psychologue.
La maternelle, quand on était 2-3 générations avant, on appelait ça le jardin d'enfants. C'était un espace de jeu, un espace où on apprenait la vie sociale, la vie collective, où on apprenait des choses de façon ludique. Là, dès la petite section... Il y a des évaluations. C'est avec des couleurs. Mais dès la petite section, il y a des 2 ans et demi qui, à la Toussaint, ont leur carnet orange, rouge, vert et ont des pressions, mais très fortes, hein, des parents et indirectement des enseignants pour que l'enfant réussisse. Avec quelque chose qui était assez paradoxal, c'est qu'on a, dans les années 70, 75, dire l'école doit être la même pour tous, ce qui est une valeur fondamentale. Tout le monde doit avoir accès à l'école. L'école est égalitaire, elle doit être la même pour tous. Mais on n'est pas tous pareils. C'est-à-dire que cette idée de l'école pour tous a été peut-être mal comprise ou mal enclenchée au niveau pédagogique avec cette idée que tout le monde doit faire la même chose. Vous avez des enfants qui sont très intelligents, mais le cadre scolaire ne leur convient pas. Donc le modèle scolaire a évolué avec beaucoup de pression par rapport aux résultats, par rapport aux normes internationales, PISA. Alors, PISA, c'est les meilleurs établissements scolaires. C'est quand même le Japon, un des meilleurs. La Corée, on a le plus fort taux de suicide. Donc, à quel coût de la santé mentale on réussit à l'école. Donc, et on a besoin d'avoir des parcours différents. Alors, on y revient, heureusement. Depuis 1 ou 2 ans, nous, dès l'apprentissage, c'est peut-être pas plus mal pour certains enfants qui supportent pas l'école. Et ça veut pas dire qu'ils sont stupides, ça veut juste dire qu'ils ont une autre forme d'intelligence et qu'ils ont le droit de réussir autrement.
On reste une institution sélective qui dit pas son nom. Le collège reste un petit lycée. L'orientation vers la voie professionnelle reste considérée comme une orientation par défaut. Et la façon dont on évalue les élèves reste extrêmement violente.
Laurent Kaufmann, principal de collège.
Je pense qu'on peut être fier et on doit être fier d'une école massifiée, c'est-à-dire d'accueillir toute une classe d'âge. En revanche, sur l'individualisation des parcours et l'adaptation, on a fait beaucoup et on fait beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais il y a un niveau d'exigence de plus en plus important. Dans l'établissement, moi j'ai essayé de faire en sorte qu'on s'en préoccupe. Les points de repère, c'est la psychologue de l'éducation nationale qui me dit, il y a deux ans, quand je lis les bulletins, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bienveillance. Donc voilà, je me dis ça, ça fait partie des trucs qu'on peut faire. Bah, par exemple, moi je demande que ce soit les professeurs principaux qui rédigent les appréciations des élèves, parce que c'est eux qui les connaissent le mieux, plutôt que moi qui fasse une espèce de synthèse en conseil de classe. Et je leur dis, voilà, moi je veux que dans toutes les appréciations, il y ait un point positif. Même quand c'est difficile et qu'il faut aller le chercher, une formule, ne vous découragez pas, nous comptons sur vous. Enfin, mais ça me paraît extrêmement important parce que c'est une trace en fait. Et les bulletins, on les garde. Donc,
On s'en souvient.
Et des mots peuvent faire vraiment, vraiment beaucoup de mal.
Est-ce que là, c'est déjà pas en train de changer? Est-ce que maintenant, les familles se disent pas l'important pour mon enfant, c'est qu'il soit heureux?
Mais ça, c'est des concepts qu'on utilise dans des milieux favorisés. Dans les milieux modestes, il y a la pression de, bah, surtout, faut que tu t'en sortes mieux que nous, quoi. Et après, l'autre complexité, mais là, c'est pas l'école, c'est les modèles que la société promeut. C'est-à-dire, ça reste quand même la réussite par l'argent. Là, le miroir aux alouettes pour les garçons de 11 à 14 ans, c'est le joueur de foot, éventuellement le joueur de rugby, enfin ou de basket. Mais c'est quand même celui qui va sortir du lot pour avoir un destin incroyable et des revenus inimaginables. Enfin, c'est quoi nos figures héroïques? Je pense que l'école, elle a beaucoup de contre-modèles aujourd'hui. Et c'est ça qui est difficile aussi pour elle. Elle n'avait pas tellement de concurrence avec ses cursus, quoi.
J'ai compris maintenant qu'en fait, ce dont il souffre, ça s'appelle trouble anxieux généralisé. Mais la phobie scolaire est une des manifestations. Parce qu'à cette époque-là, il avait aussi peur de la pluie, il avait peur de tout un tas d'autres choses. C'est généralisé. Mais en tout cas, voilà, l'école était quand même la manifestation la plus importante. Et donc, du coup, je me renseigne un petit peu sur l'association phobie scolaire. Je rentre en contact, je m'aperçois qu'il y a des correspondants dans chaque département. Et donc, je rentre en contact avec la correspondante gardoise. Et là, je tombe sur donc une personne absolument adorable. Elle me conseille une psy, donc en libéral... Elle m'explique qu'il faut absolument faire des bilans cognitifs, etc., etc. Et puis, on envisage un peu les différentes possibilités de rescolarisation éventuelle. La psy arrive quand même à nous avoir une place, du coup, un rendez-vous pour qu'il soit suivi en psychiatrie dans le secteur public à l'hôpital, parce qu'elle pensait qu'il fallait qu'il ait aussi un traitement médicamenteux. Donc là, il a commencé les antidépresseurs en juillet 2019. Le traitement du trouble anxieux généralisé passe par les antidépresseurs. Il y a des moments de cette période-là où moi, j'ai vraiment eu l'impression qu'il était en dépression, et son père aussi, et on était terrifiés de le laisser tout seul, parce que, voilà, il avait un discours vraiment très... C'était tellement mieux quand j'étais petit, c'était tellement plus simple, il avait du mal à se projeter dans la vie. Enfin, pour nous, c'était vraiment de la dépression. Donc, il a commencé les antidépresseurs. On a vu déjà quand même un petit changement à ce moment-là. Et puis, il a commencé donc un suivi en service public hospitalier. On se met à se dire les antidépresseurs plus le traitement psy plus voilà, ça va mieux, super, il va rentrer en sixième. On savait que notre collège de secteur, c'est un petit collège, on avait rencontré l'équipe de direction, ils étaient hyper à l'écoute, on adaptera tout, pas de problème et tout ça, donc on était super confiants. On avait demandé à ce qu'il soit dans la classe du seul garçon qu'il connaissait, qui était le fils d'ami à nous. Moi, je suis allée le récupérer le soir et j'ai vu dans son regard, quand il est sorti du collège, qu'il y retournerait plus jamais.
Quand je suis sortie, ma mère a vu mon visage.
Et que c'était fini et qu'on retournait 6 mois en arrière, en fait.
Et a compris direct que je n'allais pas y retourner parce que j'étais presque en larmes.
des enfants de 8-13 ans ont des troubles psy. Et une personne sur cinq dans sa vie sera touchée par une dépression ou des choses comme ça. En fait, c'est, ça fait partie de la vie. Mais là aussi, on ne se le dit pas assez, on ne le dit pas assez. Donc on a des élèves qui sont en situation de fragilité, qui ne peuvent plus venir à l'école. Donc on essaie d'inventer des choses, des emplois du temps aménagés, de dire que ça arrive, de dire que c'est normal, de dire qu'on est patient et que quand ça ira mieux, ils reviendront. Et parfois ça marche. Et parfois ça marche pas. Et pourquoi ça marche et pourquoi ça marche pas, des fois on sait, des fois on sait pas. Hein.
Il est rentré dans un micro-collège, donc là c'est une solution plus entre deux, donc ils étaient 7 élèves de la 6e à la 3e, ils avaient une entrée séparée dans le collège, ils rentraient pas avec les autres élèves, ils avaient quelques cours par semaine, qu'ils faisaient tous ensemble dans un truc très... C'est un terme galvaudé, mais très bienveillant. Aucune pression, aucune note, aucun contrôle. Voilà, c'était juste, on remet le pied dans un collège, on maintient un lien scolaire, etc. Sauf que c'est pas reconnu comme une scolarité. Donc, il faut faire le CNED à plein temps. Donc ça, plus il était en hospitalisation de jour. Donc en fait, ça fait des enfants qui finalement, alors qu'ils ont besoin qu'on... peut-être qu'ils sont moins résistants à un rythme intensif que d'autres ados et tout ça. Finalement, quoi, un emploi du temps de ministre. Là, j'ai micro-collège le matin. Là, j'ai rendez-vous à l'hôpital de jour. Là, je reviens, je dois faire mon CNED. Le CNED n'a aucune adaptation, donc on considère que j'ai travaillé toute la journée, alors qu'en fait, j'ai passé la journée en rendez-vous médical et puis que je suis un enfant qui me fatigue hyper vite parce que je ne dors pas la nuit, parce que je suis hyper anxieux. Donc, c'est quand même des rythmes fous, je trouve. Mais voilà, on bricole à peu près comme ça. Ensuite, on s'est séparés avec son père, on a décidé, les enfants et moi, de retourner vivre à Paris. Et donc là, il a été super courageux, c'est-à-dire qu'il a fait sa rentrée dans un collège où il connaissait strictement personne. Moi, j'ai aussi découvert un cadre radicalement différent. Donc, dans son dossier d'inscription, j'avais envoyé avant, dans le dossier médical, j'avais juste indiqué, mais dans une petite phrase dans un coin, genre, est-ce que vous avez des infos à nous donner ? Ben oui, il est phobique scolaire, enfin, il souffre de troubles anxieux généralisés, et notamment de il est phobique scolaire. Et en gros, il a un PAP qui a été rédigé l'année dernière. Voilà. Le jour de la rentrée, je reçois un premier coup de fil de l'infirmier qui me dit « Oui, j'ai regardé le dossier. Oh là 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 là, racontez-moi tout. Vous lui dites qu'il faut qu'il n'hésite pas à venir me voir. Oh là là, on va être très à l'écoute. » Une heure après, je reçois un coup de fil de la CPE qui me dit la même chose, quoi. Elle, je la rencontre assez rapidement. Elle me dit « Mais n'hésitez pas, dès qu'il y a quoi que ce soit, rapidement, je suis en contact avec son prof principal. Le même discours. » Et puis voilà, il s'est accroché, et là on est donc au mois de juin de l'année 3e, et je pense qu'il a dû rater l'école une fois parce qu'il était un petit peu anxieux. Sinon, il a arrêté l'école quand il avait des rhumes, quoi, mais voilà. Je dirais pas qu'il est zen, je pense qu'il restera anxieux toute sa vie, mais il apprend à le gérer. Il a horreur de l'école et du collège, il en aura, je pense, peut-être pas tout le temps horreur, mais en tout cas, voilà... mais il arrive, il s'accroche.
Sophie Balu, quand vous regardez les jeunes que vous avez, vous êtes au lycée, vous vous dites quoi ? Que les jeunes vont bien ?
Non. Là, clairement, c'est particulièrement cette année. Il y a une multiplication. On n'a jamais vu autant d'élèves en phobie scolaire faire des malaises, faire des crises d'angoisse, terminer aux urgences. Et c'est nos très bons élèves. C'est pas les élèves qui... On va avoir le profil, on va dire, traditionnel de décrocheurs. C'est plutôt les très très bons. On a des élèves qui ont plus de mal à être en groupe, à faire groupe, et à le côté solidarité est plus difficile à mettre en place. Et en plus, au lycée, c'est accentué par le fait qu'il y a une réforme du lycée qui encourage en fait ces effets d'individualisme, sans forcément jugement derrière pour les élèves, mais parce que les classes ont éclaté, ils sont moins souvent ensemble, il y a des emplois du temps qui sont très très lourds. Il y a une mesure permanente aussi et une... Bah, ça fait toujours un peu compétition quelque part, puisque maintenant, avec Parcoursup, dès la première, leurs notes comptent. Donc, il y a un contrôle continu, donc toutes leurs notes comptent. Tout est important. Cette épée de Damoclès qui leur est en permanence suspendue au-dessus de la tête, c'est horriblement angoissant. L'école est passée d'un lieu un peu d'enseignement à un lieu d'évaluation beaucoup.
On a une tendance dans les sociétés judéo-chrétiennes, et je pense surtout à la France et aux anglo-saxons, mais pas les Américains.
David Cohen, psychiatre, professeur et chef du service de pédopsychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital Pitié-Salpêtrière.
A pensé que on est meilleur quand on crée de la compétition, de l'émulation par la punition, etc., etc. Mais en fait, c'est faux. Toutes les expériences de pédagogie ont montré que les enfants sont plus heureux et plus efficaces quand ils sont motivés positivement. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup, beaucoup de mal à introduire dans notre système scolaire actuellement.
Les premières années, on a vraiment vu, nous, une négociation permanente. On recevait des mails pour dire « Ah, j'ai 9,5, je ne peux pas avoir 10 ». Dès qu'on met des notes, les parents peuvent nous écrire aussi pour nous dire « Ah, mais vous avez eu ça ». Les élèves qui essayent de... Il y a beaucoup de triche, beaucoup plus, qui est souvent plus couverte par les parents, parce qu'on, ce qu'on comprend, c'est des stratégies normales à mettre en place, parce que là, on ne triche pas un examen en cours, c'est assez facile de tricher. Donc ça a un peu rompu une... Et nous aussi, ça rend notre rôle beaucoup plus violent avec eux, en fait. C'est pas pour rien que normalement, dans un examen, les jurys ne connaissent pas les élèves. Là, on les connaît, c'est très dur d'être objectif quand il y a un enjeu autre que juste leur dire où ils en sont dans leurs apprentissages.
Un jour, je devrais formuler mes vœux pour les études supérieures. Je ferai tout pour que ça se passe au mieux, rendre fiers mes professeurs. Je mets mes diveux, je me dis
ouais, ça va le faire.
Je vois les attentes, c'est pas sérieux. Dois-je le dire à ma mère? Parcoursup, essayez-le, c'est notre avenir. Ensemble en liste d'attente. Parcoursup, rien ne nous acceptera. La deuxième fois nous sauvera. Parcoursup,
moi c'est Pauline. Je suis étudiante à l'école de design Nantes Atlantique et j'ai fait une phobie scolaire quand j'étais au lycée. J'ai été élevée par mon papa jusqu'à mes 3 ans, donc j'ai jamais été chez la nourrice. Donc la rentrée en maternelle, c'était vraiment la première séparation avec les parents. Et du coup, ça a été assez difficile parce que très rapidement, je me suis mise à me réveiller la nuit et à pas réussir à dormir les veilles d'école. Donc déjà là, on sent qu'il y avait quelque chose d'assez étrange et une certaine anxiété face à l'école. Ma maman, face à ses problèmes nocturnes, m'a emmenée voir une pédopsychiatre. Je ne sais plus combien de séances j'ai fait avec elle, mais je me souviens juste du diagnostic qu'elle a posé. Selon elle, c'était juste que je me prenais pour une princesse. Parce qu'elle m'avait demandé de faire un dessin. Et dessus, je m'étais dessinée avec une petite robe de princesse. Donc bon, ma maman, comme c'était une spécialiste, elle a dit « bon, bah, ok ». Elle a rien pu faire quelque chose en plus, quoi. Donc finalement, j'ai continué ma maternelle comme ça, avec cette angoisse. Donc à ma rentrée en CP, j'ai fait ma rentrée dans une nouvelle école. Je me suis faite des amis. Mais par contre, j'avais tous les matins... Avant d'aller à l'école, dès que je me réveillais, une sorte de petite boule au ventre. Pourtant, il ne se passait rien de spécial à l'école. J'avais des bonnes notes, je m'entendais bien avec les autres enfants. J'avais des amis. Par contre, ce qui a commencé à apparaître, il me semble, en CE1, CE2, c'est des grosses crises d'angoisse. Donc chez moi, ça se manifestait par le fait que, par des bouffées de chaleur, j'avais très chaud, j'avais très mal au ventre, j'avais des nausées et surtout, j'avais très peur de vomir. Et puis j'ai fait ma rentrée au collège. J'avais pas d'inquiétude sur le fait d'aller au collège parce que bah j'étais avec tout le monde, donc c'était juste les quatre murs qui changeaient, quoi. Et malheureusement, en 6e et 5e, j'ai été harcelée dans le car scolaire. Il y avait un groupe d'ados qui étaient plus vieux que moi. Ils étaient peut-être 5, autour de 5 personnes. Des garçons, des filles... Et la conductrice de mon car avait la fâcheuse tendance, au début d'année, à nous imposer une place dans le car. Moi, comme j'étais au collège, j'étais au fond du car. Donc c'était très compliqué, je ne pouvais pas leur échapper. Et ça a vraiment été crescendo. Au départ, c'était des remarques. Par exemple, quand il y avait des nouveaux qui arrivaient dans le car, « Ah, t'approches pas d'elle, elle est bizarre, elle est pas sympa. » Et après, ça a commencé à être des insultes. Là, ça a commencé à être plus difficile pour moi. Et puis après, bah, ils ont commencé à me lancer des choses. Donc ça a commencé par des paquets de mouchoirs. Mais même si ça faisait pas mal, c'était hyper dégradant. Et puis après, c'était on met tous nos sacs de cours à ta place pour pas que tu puisses t'asseoir. Donc moi, forcément, j'étais obligée de déplacer leurs sacs. Et dès que je touchais à leurs sacs, je me faisais incendier. Donc c'était une raison de plus pour eux pour m'harceler. Pareil, ils tapaient dans mes sièges, ils donnaient des coups de poing pour me déranger. Et dans mon car, il y avait une grande vitre. Et au-dessus, il y avait deux petites vitres. Et il y avait une des petites vitres qui s'était décrochée. Et au lieu de la réparer, ils l'ont juste laissée poser. Sauf que quand le car, il roule, les vitres, elles tremblent. C'était pas très stable, c'était déjà dangereux de base. Et cette vitre était juste au-dessus de moi. Et ce groupe de personnes a tenté de la faire tomber sur moi, en fait, en tapant sur la grande vitre. Et à chaque fois, je regardais la vitre et j'étais « tombe pas, tombe pas ». Heureusement, elle n'est jamais tombée. Mais vraiment, ils voulaient me faire du mal, quoi. C'était leur objectif.
Oh, fais attention, baisse les yeux, je suis dit. Tu vas faire quoi?
T'as vu la photo de toi qui tourne? T'es éclaté.
C'est bon, c'est juste un montage.
Attends, t'as dit quoi, là? Articule un peu, on comprend rien à ce que tu dis. Bouffon, va.
Peut-être que c'est grave, mais si je dis quelque chose, peut-être que demain, ce sera moi.
Élèves, parents, professionnels, en cas de harcèlement, appelez le 3020. En cas de cyberharcèlement, le 3018.
Les thématiques de harcèlement qui sont très actuelles, nous, aux urgences, on les a depuis 15 ans.
Vanessa Millet, psychiatre de l'enfant et de l'adolescent, accueil urgence de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière.
Et la progression, elle est nette. C'est-à-dire que là, on en parle, mais c'est parce qu'on est sur une évolution sociétale très nette, absolument comme les autres mouvements sociétaux. C'est-à-dire qu'au début, c'était la honte d'être harcelé. C'était même la honte pour les parents d'avoir un enfant qui pouvait être le faible et être harcelé. Et puis, on n'en parlait pas et on envoyait les dégâts collatéraux avec des histoires de harcèlement, de déscolarisation. On révélait les choses des années après. Puis, progressivement, les choses se sont révélées. Avec aussi des parents qui ont été plus proactifs en disant « c'est pas normal », des mouvements aussi de prévention qui ont été très différents selon les établissements. Et ça, on voit bien les établissements qui n'ont pas évolué tous à la même vitesse. Voilà, après, il y a eu le 30-20 quand même qui a été une autre étape de dire « on peut en parler ». Et puis après, au-delà du numéro, derrière le numéro, c'est on a bien vu, les parents nous font un retour de ce qui se passe avec le 30-20. Et puis ça doit se faire aussi dans la juste mesure, parce que des fois, c'est aussi des histoires entre enfants, et puis il faut médier les histoires entre enfants, il faut que ça soit repris. 30-20 ne veut pas dire dépôt de plainte. Il y a quelque chose qui ne va pas, et donc on va s'en occuper, et on va reprendre le temps de décrypter les choses. Et ça permet quand même d'avoir des situations qui se sont largement calmées, des prises en compte.
J'en ai jamais parlé parce que dans ma tête, ils avaient vraiment réussi à me retourner le cerveau. Parce qu'au départ, j'arrivais à me dire c'est pas normal, mais j'avais quand même honte d'en parler. Et plus le temps est passé, plus je me suis dit en fait je le mérite parce que c'est un grand groupe, ils sont plus nombreux que moi. Et dans ma tête, le plus grand nombre a raison. Donc j'ai rien dit parce que j'avais peur en le disant bah, par exemple à mes amis qu'elles se disent « Ah mais ils ont raison en fait de t'harceler, donc on va faire la même chose ». Et mes parents, c'est pareil, j'avais peur qu'ils se disent « Mais c'est vrai, t'es nul, c'est genre tu mérites ce qui t'arrive. » Ou même juste qu'ils me grondent parce que je leur en avais pas parlé avant. Et puis je savais pas aussi la réaction qu'ils allaient avoir. S'ils allaient voir la conductrice, est-ce que ça allait pas faire empirer la situation? C'était plein de facteurs qui étaient inconnus et à ce moment-là, j'ai préféré me renfermer sur moi-même. Mais ça a été très dangereux. Parce que du coup, bah, petit à petit, j'ai commencé à m'en vouloir et à penser que c'était de ma faute et du coup à vouloir me punir. Donc j'ai commencé le soir en rentrant chez moi à me griffer, à me taper, vraiment à vouloir me faire du mal. Et après, ça a évolué et j'ai commencé à avoir des pensées suicidaires. Et du coup, un soir, je me suis dit, bah, j'en ai marre, quoi. C'est plus possible pour moi, c'est trop lourd à porter. Et je me souviens avoir essayé de me pendre et heureusement, ce jour-là, ma maman est arrivée plus tôt du travail. Une chose qui n'arrive jamais. J'ai vu les feux de la voiture de ma maman dans la fenêtre. Ça m'a coupé dans mon élan. J'ai tout rangé et j'ai fait comme si de rien n'était. Heureusement, vraiment, le timing était très, très serré et ça se jouait à quelques minutes. Mais même après avoir fait ça, je me suis pas dit qu'il fallait que j'en parle. Et après, en début de quatrième, j'ai eu de la chance. Eux, ils devaient partir au lycée. Donc, ils n'étaient plus dans le même car que moi. Et du coup, la quatrième et troisième, c'était vraiment une période de tranquillité pour moi, où j'étais plus harcelée. Et puis, à l'école, tout se passait bien. En sixième et cinquième, mes notes n'ont pas baissé, malgré le harcèlement. Rien n'a bougé. Mais je faisais toujours des crises d'angoisse assez violentes. Et les vomissements étaient beaucoup plus fréquents aussi. C'était pratiquement systématique.
Le groupe devient une entité extrêmement menaçante qui, du jour au lendemain, peut vous exclure, peut vous désigner, peut faire de vous un bouc émissaire.
Serge Effèze, psychiatre et psychanalyste.
Peut faire que vous êtes l'objet de harcèlement, et on le sait bien, et on voit les suicides se multiplier à l'heure actuelle pour ces causes de harcèlement, c'est-à-dire avec cette idée que les relations sociales sont devenues effectivement de plus en plus difficiles, et qu'on est seul face aux autres et seul face au groupe. Et ces malheureux ados là qui ont fait des tentatives ou qui se sont suicidés récemment, victime de harcèlement, l'image que les jeunes ont de ça, c'est qu'il est seul face au groupe et face au groupe qui devient une espèce de tout homogène où ne surgit aucune individualité, comme une espèce de monstre comme ça à plusieurs têtes, et chacun sait qu'il est menacé à un moment ou à un autre d'être à cette place-là. Et ça, effectivement, ça rend les relations sociales, évidemment, plus dangereuses. Donc il vaut mieux être conforme, il vaut mieux pas trop émerger, il vaut mieux être comme les autres.
Ce qui est totalement angoissant pour grandir.
Oui.
En étant bien, c'est complètement paradoxal, du coup.
Oui. C'est une série de contradictions autour de cette fabrication de l'identité aujourd'hui. Quand on parle d'identité un petit peu comme Ricoeur, hein, c'est deux choses. L'identité, c'est à la fois l'identité de l'individu individuel, de son histoire, de ce qu'il est, c'est-à-dire un être unique par rapport aux milliards d'autres personnes et qui doit forger cette identité individualisée, disons, et en même temps, l'identité, c'est ce qui est identique, c'est-à-dire c'est ce qui vous ramène au groupe. Et effectivement, les ados, mais comme tout le monde, ils sont pris dans cette apparente contradiction entre l'individuel et le collectif. Sauf que ces injonctions, aujourd'hui, sont devenues beaucoup plus féroces. Ça a toujours été ça, la fabrication de l'identité, ça a toujours été un petit peu compliqué. Mais aujourd'hui, le « sois-toi-même » devient qui tu es, devient une injonction paradoxale extrêmement forte, et l'autre injonction qui est celle du groupe, soit comme nous, soit identique, porte les mêmes vêtements et les mêmes activités, écoute la même musique, voilà, coiffe-toi de la même façon, etc. Eh bien, l'adolescent est pris en étau finalement entre ces deux modes d'injonction qui sont aussi contraignants finalement l'un que l'autre.
Alors c'est pas facile hein, le harcèlement. On a des cas en ce moment très complexes, et multifactoriels. C'est extrêmement complexe aussi selon la personne qui est victime, et c'est aussi très complexe selon aussi le profil des individus harceleurs. Mais en tout cas, plus c'est tôt, moins les dégâts seront importants. Et puis là, on est dans une autre dynamique, mais qui est la dynamique réelle, c'est-à-dire qu'il faut que la peur change de camp. Et pour que la peur change de camp, la médiatisation a un poids énorme, et puis il va y avoir besoin aussi, on va dire, de prévention, de réelles données qui doivent être données aux parents des harceleurs. Tout parent peut être parent d'un harceleur ou d'un harcelé. Et parfois même, des harcelés peuvent devenir harceleurs. Donc voilà, aucun parent n'est protégé d'avoir un enfant qui, à un moment, va devenir harceleur. Alors bien sûr, il y a des profils d'enfants qui sont plus dans des problématiques, antisociales, de troubles des conduites et qui seront potentiellement plus dans des conduites un peu agressives, mais soyons pas sereins. On est vite fait dans le bon groupe de la masse, du suiveur, et dans celui où on se sent un petit peu protégé. Et on n'imagine pas les dégâts qu'on fait à la personne désignée.
Dans les histoires de harcèlement, on le sait bien, il y a souvent un harceleur qui est en général, qui a un profil un petit peu particulier, celui qui lance le truc et qui a malheureusement souvent des traits déjà pervers chez des jeunes. Et puis il y a tous ceux qui suivent. Donc moi je pense surtout à l'action par rapport à tous ceux qui suivent, où ils n'ont pas la conscience de ce qu'ils font. Et je crois que c'est ça qu'il s'agit de leur donner, mais de façon extrêmement ferme. C'est-à-dire, c'est leur parler de leur responsabilité, que quand quelque chose se passe parce qu'on a harcelé quelqu'un, chacun est responsable, et que ça n'est pas seulement celui qui a lancé le groupe, qu'il faut parler très crûment des conséquences de ça, c'est-à-dire qu'il risque de tuer quelqu'un en faisant ça, et je pense qu'il faut employer ces mots-là. Il risque de tuer quelqu'un, c'est comme s'il prenait un revolver et qu'il tirait sur quelqu'un lorsqu'il participe à un harcèlement de groupe. Il faut leur parler de la réalité, c'est-à-dire de la loi, leur dire que c'est quelque chose qui tombe sous le coup de la loi, qui est passible de poursuite devant un tribunal, etc. C'est-à-dire mettre un petit peu de réalité dans cette virtualité. Il faut le dire, il faut le répéter à l'école, dans la famille, dans les médias. Enfin, il faut vraiment quelque chose de très volontaire autour de ça.
Qu'on m'efface, je n'ai pas trop d'amis. Regardez en classe, c'est pas l'extase. J'ai beaucoup d'espace, je suis seul. Et personne à qui le dire.
C'est pas le pire.
Quand la pause arrive, je ne suis pas tranquille. Il faut que je m'éclipse ou alors accuser les coups ou dehors. Il faudra que je cours tous les jours. Faudra-t-il que...
En fin de troisième, il a fallu commencer à réfléchir au lycée. Tout l'été précédant la rentrée de seconde, j'étais assez positive. Je me disais, ok, ça va être une nouvelle étape, tu vas rencontrer des nouvelles personnes. Et à la rentrée, ça a été un petit peu difficile. Déjà, bon, j'avais une amie dans ma classe, donc ça, c'était déjà cool. Mais on était très... Enfin, il y avait un gros groupe d'amis dans ma classe et nous, on était à côté, toutes seules. Les autres élèves s'insultaient entre eux, se poussaient. Et moi... Avec mon ami, on n'était pas du tout dans cette optique et dans cette vision. Enfin, on ne traitait pas les gens comme ça, nous. Donc, c'était déjà très différent. Et moi, je pense que inconsciemment, j'ai commencé à me dire ils ont un peu le même profil que les gens qui m'ont harcelé. Et je pense que j'ai commencé à avoir peur à ce moment-là que mon harcèlement se reproduise. Et là, ma petite boule au ventre, elle a commencé à grossir. Et c'était des « je veux plus aller à l'école, je peux plus là, j'ai peur, je veux pas y aller ». Pour moi, c'était l'enfer qui m'attendait là-bas. J'avais l'impression que j'allais mourir là-bas. Donc je commence doucement à en parler à ma maman. De toute façon, elle le voit bien. Et elle me dit « de toute façon, t'as pas le choix, il n'y a pas d'autre solution, tu dois aller à l'école, donc t'as pas le choix ». Et là, ça m'a paniquée parce que je me suis dit « je vais devoir passer 3 ans là-dedans ». Et là, je pouvais pas. Genre, j'ai commencé à paniquer. Donc, j'ai commencé à aller très souvent à l'infirmerie, à l'école. Dès que j'étais en classe, j'avais très mal au ventre. Donc, dès la pause du matin, bah, j'allais à l'infirmerie pour me reposer. Et puis, bah, le week-end qui est arrivé, j'ai commencé à en venir à me dire « je préfère mourir que d'aller à l'école. C'est plus possible pour moi. » Donc, le dimanche soir, j'étais toute seule à la maison. Et j'ai décidé de prendre une grosse dose de médicaments. Le soir passe, la nuit passe, je me réveille, rien. Je me sentais normale. Donc j'ai repris une autre dose de médicaments. Toujours rien. Et là, c'est l'heure pour ma maman de m'emmener au car. Et là, je lui dis, je peux pas y aller, c'est pas possible. Elle me fait, mais t'es obligée, en fait. Et là, je lui dis ce que j'ai fait. Et elle comprend pas. Je pense qu'elle n'avait pas tout de suite compris. Et je pense qu'au départ, elle pensait plus que c'était un caprice. Elle ne comprenait pas vraiment le mal-être que c'était. Et à l'époque, elle, phobie scolaire, elle n'en avait jamais entendu parler. Et du coup, elle a dû m'emmener au CHU de Nantes.
Je voudrais m'arrêter, je peux plus respirer dans ce monde parmi vous. Je voudrais m'arrêter, je peux plus respirer dans ce monde parmi vous. Je voudrais m'arrêter, je peux plus respirer dans ce monde parmi vous. Je voudrais m'arrêter.
Laurent Kaufmann, quelle est votre marge de manœuvre à vous ? Dans une situation de harcèlement ou de phobie scolaire, comment vous aidez les parents ? Comment vous accompagnez un enfant ?
Je pense que ce qui est important, c'est de créer des espaces où d'abord ça peut être parlé. Ça peut être dit, et où l'école est finalement le réceptacle de ce qui se passe. Et donc créer les conditions de confiance pour que les élèves trouvent un interlocuteur adulte à qui venir parler. Et puis, c'est, il y a la coéducation avec les parents, c'est-à-dire trouver des espaces. Il y a des choses qui peuvent être aussi en dehors de l'espace scolaire. Donc, il faut voir si les parents sont au courant de ce qui se passe. Le harcèlement, souvent, on s'aperçoit que les familles n'étaient pas au courant. Hein.
Que les enfants n'ont pas osé parler.
Dans un précédent établissement, j'avais fait intervenir une psychanalyste qui faisait des groupes de parole avec les enfants et qui m'avait dit à la fin de son intervention, c'était un thermomètre super, elle disait, ils ont confiance dans les adultes. Ce qui ressort dans ce qu'ils disent, c'est que la confiance dans les adultes est là dans l'établissement. Et je me suis dit, ça, c'est un des plus jolis baromètres. Et du coup, c'est ça qu'on peut faire dans les équipes de direction.
Je m'appelle Alix, j'ai 13 ans, je suis en 5e et je suis hospitalisée à la Petite Salpêtrière. Le harcèlement, c'est depuis l'âge de mes 10-11 ans que ça a commencé. Et c'est très dur de vivre avec et d'être dans un environnement où chaque jour, on sait qu'il va y avoir des remarques, parfois même des attouchements et tout ce qui va avec.
De la part d'autres élèves ?
D'autres élèves, oui.
Et ça, vous en parliez avec votre entourage, vos parents ? Vous le racontiez le soir ?
J'ai pris beaucoup, beaucoup de temps avant de le raconter. C'est-à-dire que je ne l'ai raconté que cette année, en fait. Alors que ça dure depuis mon CM2. Donc 3 ans. Et c'est un sujet qui a été très compliqué pour moi et d'en parler est très compliqué.
Pourquoi vous aviez cette impression qu'on ne pouvait pas parler du fait que vous harcelait ?
Je sais pas. Je pense que c'est parce que je me suis beaucoup aussi sentie faible que peut-être que je me dis que c'était de ma faute, que en fait il y a beaucoup eu de culpabilité alors qu'en fait c'est un peu leur faute quoi, oui. De ceux qui m'harcèlent, qui m'ont harcelé en tout cas.
Aujourd'hui, je vais parler de moi. Oui, vous avez bien entendu, je vais parler de moi. Parce que 11 ans n'est pas un âge pour traiter une petite fille de pute. Juste parce que oui, 11 ans c'est tôt pour avoir une poitrine imposante, à vos yeux. Parce que se faire harceler et détruire une personne à cause de ça, c'est grave. Oui, c'est grave. Je n'avais rien demandé, mais vous ne le comprenez pas. Je ne croyais même pas en Dieu, mais tous les soirs je lui demandais de l'enlever, de la retirer, de la supprimer.
J'ai développé de la poitrine très tôt et donc c'est à cause de ça que tout de suite les garçons se sont enflammés quoi. Voilà. Et moi ça m'a fait du mal très tôt parce que j'ai une maturité aussi que d'autres n'ont pas et donc ça m'a fait énormément de mal.
Parce que vous vous êtes sentie salie, vous vous êtes sentie...
Un objet. Comme si j'étais un objet quoi. Que j'appartenais aux autres et que j'avais pas de vie moi.
Et c'est pour ça que vous vous êtes fait du mal ? Vos bras qui sont...
Alors, il y a beaucoup d'autres raisons, mais oui, je me suis fait du mal parfois par rapport à ça, parce que du coup, ça a fait que j'ai eu un dégoût complet, en fait, de mon corps. Vu que j'avais vraiment l'impression d'être un objet, le besoin de me dire que je ressens quand même quelque chose et que, d'un côté, je suis peut-être pas complètement un objet, que je suis encore en vie. Je suis pas complètement encore l'appartenance de quelqu'un. Même si je sais que ce n'est pas une bonne solution, mais c'est comme ça que moi j'ai réussi à me sortir un peu de ça.
Vous me l'avez fait détester. Mais maintenant, plus personne ne la touchera, ni lui manquera de respect. Parce qu'11 ans n'est pas un âge pour se faire traiter de pute et se faire attoucher. Vous vous rendez compte ? À l'âge de 11 ans, je l'abîmais déjà avec des lames. Car vous m'avez détruite.
Et en fait, arrivée ici, au début, je détestais être ici, je voulais que sortir, je disais que ça. Et en fait, à un moment, j'ai compris que ça m'aidait vraiment, que j'avais un cadre sécurisant. Que j'avais besoin de parler, que de m'ouvrir, ça me faisait du bien, et que je n'étais pas qu'un objet. Moi aussi, j'avais le droit de ressentir des émotions, et ces émotions-là, j'avais le droit d'en parler avec d'autres personnes. Donc je pense que la parole, ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. Le fait d'être dans un endroit où il y a beaucoup moins de jugement, parce qu'on est beaucoup moins, ça m'a beaucoup aidée aussi de ne plus être à l'école et tout. Et c'est vraiment faire en fait une pause dans sa vie. Et donc ça m'a beaucoup aidée en fait au final et au début je voulais pas l'avouer du tout parce que pour moi jamais à l'âge de 12 ans je pensais me retrouver dans un hôpital pédopsychiatrique.
Mais maintenant je commence tout juste à l'aimer car elle fait partie de moi, car elle m'appartient. Elle est belle et n'a pas besoin de se faire abîmer car maintenant j'ai repris les commandes comme j'aurais toujours dû les avoir. et j'envoie tout mon courage à celles qui vivent cela. Car 11 ans n'est pas un âge pour se faire traiter de pute et se faire attoucher.
Vous vous cachiez au début ?
Ah, je me suis énormément cachée. Et là, j'arrive un peu plus à... Bon, là, il fait chaud, donc j'essaye un peu plus. Mais le matin, c'est... Ça va être peut-être bête, mais c'est un combat de se mettre en débardeur, vraiment. Par peur de recevoir des mots, parce que rien que les mots, en fait, au final, ça blesse. Il n'y a pas besoin de gestes, juste un mot. Et pour essayer de se reconstruire en sachant que les gens vont continuer, c'est encore plus difficile. Mais bon, je crois que j'ai quand même réussi à faire un pas en avant. Rien que d'en parler là maintenant, ça me touche, j'ai un peu la voix qui tremble et tout, mais je crois que j'ai fait un bon pas en avant et je suis fière de moi quand même.
Avec Fadela Alila, Karel, Nicolas Espel, Attika Lemerle, David Cohen, Simon, Flavie, Sophie Balu, Hélène Romano, Laurent Kaufmann, Pauline, Serge Ephèse, Élie Coury, Vanessa Millet et Alix. Merci à Olivier Galland. Merci à la direction de la communication de l'APHP. Merci au centre hospitalier de Mâcon et au CHS de Sevray.
Quatre mois et demi. Et je sors demain. Oui, c'est vrai. Ah, je suis super contente.
Et debout, pour rentrer debout. Et ça, c'est quelque chose de fondamentalement important pour moi. Pour nous tous, quoi.
Qui est-ce qui vient me chercher ?
C'est mon père. Donc, je suis super contente. Parce que c'est dur aussi d'avoir une hospitalisation. Je pensais pas que ça allait être aussi dur. Mais bon, s'il faut passer par là, faut passer par là.
Ils vous ont manqué ?
Ah, ils m'ont manqué énormément. Beaucoup, beaucoup. Mais en même temps, qu'est-ce qu'ils vont manquer, les gens d'ici ?
Prise de son, Virginie Lorda, Martin Troadec, Marc Arvenès, Lucien Lefebvre et Manon Houssin. Mixage, Bastien Varigo. Documentation, Annie Signoret. Chargée de programme Marie-Vonne Abolivier et Anaïs Morales. Coordination Johanna Bedeau. C'était Jeunesse, le mal de vivre. Quand l'école fait mal. Un documentaire de Johanna Bedeau, réalisé par Marie-Laure Ciboulou. Straight out the jungle like the JBs. We are niche like wildfire, one love for either. As long as we still breathe, it shall only increase in depth, in intensity, in strength and degrees. Like global warming and natural catastrophes. Word is born indeed, free form and potential, building up from the essentials. That's what I call common sense from the mentor. Eventually, the gentle shall be defeating the detrimental for real. Show is a permanent task, we stand firm and determined to last and surpass the vermin that's crossing our path, trying to mash up our goals, but we bold and we hold on fast. We have the carriage, a heavy, heavy load. The road is long and narrow, full of bends and slopes, full of sticks and stones, but they can't break a bone, so let's stick these stones out till the living end.